deuxième émission de Philo au Partage avec Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau de l'association Philo et Partage. Cette semaine, ce mois-ci, nous aborderons le thème « La mercantilisation du vivant et du bio ».
Oui, alors peut-être avant d'aborder le sujet, dire deux mots sur notre association et ses objectifs. L'objectif, c'est bien le débat, apprendre à penser par soi-même, développer l'esprit critique. Et apprendre à penser par soi-même, c'est toute une démarche qui consiste à se défaire des a priori qui nous ont été inculqués. Et particulièrement sur un thème comme celui qu'on va évoquer aujourd'hui, je crois que c'est très important que d'avoir l'esprit libre et l'esprit critique. Alors, marchandisation du vivant et bioéthique est un sujet assez vaste qui a été présenté par un de nos adhérents qui est médecin honoraire et qui était, je crois, dans notre association le plus habilité à le faire. Il a commencé par une série de définitions pour savoir aussi de quoi on parle, la définition de la marchandisation, comme étant le résultat d'une façon de traiter une dimension comme une valeur marchande. Et puis et ensuite, définir ce que c'était ces produits, définir ce qu'était le vivant, le mot biologie, l'hérédité, le génisme, qui est une philosophie qui consiste à vouloir ne garder comme succession dans le vivant que les meilleurs. Ensuite, des définitions qui permettent d'entrer dans l'éthique et la bioéthique, la conscience, l'éthique, et les manipulations biologiques, évidemment, dont il a abordé. Et après, sur un certain nombre de valeurs qui pouvaient être défendues par la bioéthique. Ce sujet est un sujet qui est difficile, mais qui a été abordé grâce à cet exposé liminaire d'une façon très claire, et qui a permis un débat très fourni, ou qui nous a permis, effectivement, d'éclairer un bon nombre de nos adhérents sur le sujet, pour certains d'ailleurs qui n'avaient même pas pris conscience. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre peut...
Oui, et certaines facettes ne sont pas faciles à cerner sur ce grand sujet. Si les auditeurs de Couleur FM veulent se reporter à l'intégralité des comptes rendus, des interventions de Philo et Partage, on peut les retrouver sur le site internet de Philo et Partage, philoetpartage.fr tout simplement. Notre ami André Arnaud a posé un certain nombre de définitions et puis expliqué que tout n'était pas forcément à vendre dans le vivant. On a un peu de mal à s'imaginer sur le corps humain ce que ça peut être. Et on a eu la chance d'avoir aussi une intervention, un complément d'explication apportée par une jeune fille qui fait des études en agriculture, qui s'appelle Esther, et qui a posé le problème vu par sur les végétaux et les animaux. Et là, on est tout de suite plus sensible quand on parle d'OGM, par exemple, quand on parle de clonage, quand on parle de greffe ou d'expérience sur les animaux. On sait qu'on est capable de presque tout faire maintenant avec les avancées de la science, des techniques, de la chirurgie. On peut transformer des corps vivants, végétaux ou animaux, et on est aussi capable maintenant de presque tout transposer sur le corps humain. La chirurgie s'arrête peut-être à la transplantation du cerveau maintenant, mais on est capable de tout greffer et de tout transformer dans le corps humain. Donc ça pose des questions éthiques, d'où le mot bioéthique, c'est-à-dire l'éthique du vivant.
Oui, alors le débat a été d'ailleurs intense, comme je disais tout à l'heure, et il est vrai que il n'est pas question de laisser faire des grands laboratoires ou des grands groupes financiers qui, par l'intermédiaire des brevets, s'arrogent finalement la possibilité de faire du profit sur la santé, des profits à propos de ce qui devrait être de l'ordre du bien public. Néanmoins, dans le débat, c'est revenu aussi à plusieurs reprises, il n'était pas question pour un bon nombre de nos adhérents, et je crois que ça faisait consensus, de mettre en cause les progrès de la médecine. On a besoin des dons d'organes, on a besoin du don du sang. Que serait l'avenir d'un certain nombre de personnes sans la greffe de cœur, la greffe de poumon, la greffe de foie? Et je crois que personne ne voulait mettre en cause ces greffes-là, sachant que même s'il y a un coût, parce qu'il y a l'acte chirurgical de le prélèvement et puis l'acte chirurgical de la greffe. Néanmoins, les organes font l'objet d'un don et non pas d'un trafic, sauf peut-être dans certains pays. Mais dans notre zone française ou européenne, on n'est pas dans ce cas de figure. Et la bioéthique a pour but de bien montrer les limites de ce qu'on peut faire et de ne pas faire. On a évoqué d'ailleurs le Conseil consultatif national d'éthique, CCNE, présidé maintenant par le professeur Delfrécy, qui a succédé à Jean-Claude Amezen, et qui rend des avis sur ces questions. Alors on a bien évoqué ce conseil qui, lui, n'a pas de valeur réglementaire ou légale. C'est ce qu'il rend, ce sont des avis. Néanmoins, il est en progrès, et ce conseil, qui est composé des gens éminents, des spécialistes, permet de continuer les progrès dans la recherche scientifique, notamment médicale, sans pour autant ouvrir la porte à des grands groupes qui sont prêts à déposer des brevets pour avoir l'exclusivité d'un certain nombre d'avancées médicales. Et je crois que les difficultés, elles sont là. Et comme l'a dit Jean-Pierre, au niveau effectivement, non pas du vivant humain, mais du vivant agricole, que ce soit les animaux ou les végétaux, eh bien effectivement, on est déjà bien avancé et probablement que ce qui s'est passé pour la bioéthique sur la santé aurait l'avantage de le faire aussi sur les animaux et sur les végétaux, parce que en réalité c'est notre environnement qui est en cause et probablement qu'il faudrait aussi arriver à réguler un certain nombre de profits qui vont pas dans l'intérêt du citoyen.
Est-ce que dans le débat est venue l'idée effectivement que maintenant il est obligatoire de faire des dons d'organes? Si on n'a pas de carte, nos organes sont donnés. Est-ce que ça aussi, parce que c'est quand même quelque part une petite atteinte à nos libertés?
Ça a été dit par André Arnault qui, effectivement, du point de vue légal, on est présumé donneur lors d'un décès accidentel de nos organes, alors qu'on n'a pas exprimé en rien de nos souhaits là-dessus, et que si on ne veut pas être donneur, il faut l'avoir précisé avant dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est un des paradoxes de la loi. En même temps, cette loi, elle a sans doute pour but de permettre de combattre une pénurie grave d'organes, parce qu'il y a des malades qui sont en attente d'organes depuis des mois et des mois, voire des années.
Oui, mais quelque part, comme je le dis, c'est un peu une atteinte à la liberté. On a envie ou pas de donner un don d'organe, même si on sait, ça peut être aussi religieux. Enfin, il y a plein d'autres explications à ça. Et moi, c'est ce qui me dérange. Je ne suis pas contre le don d'organe, mais quelque part, on oblige des choses aux gens. Et comme vous le disiez si bien, tout ça, c'est à la limite, à un moment donné, commercial. Il y a des chirurgiens, il y a des tas de gens qui vont se faire payer des honoraires au-delà déconventionné pour faire ces opérations, même si ça sauve des vies, on est bien d'accord, mais là il y a...
Alors sur les greffes en fait, hein, puisque un organe qui vient d'extérieur c'est une greffe, évidemment ces greffes viennent très très souvent d'une personne décédée, hein, donc ça pose un problème qu'on va dire éthique, moral, en fonction de sa culture locale, nationale, surtout la culture religieuse, hein, où pendant, de toute façon, la médecine a pris un retard énorme tant qu'il y a eu des pressions des religions, toutes, on va dire, en tout cas les grandes religions monothéistes, sur ces expériences sur le corps humain. Alors, ceci dit, c'est quand même un énorme progrès de pouvoir le faire. Et la loi favorise en fait le prélèvement de greffons. Les personnes qui sont hostiles doivent pouvoir le signaler. Et c'est dans ce sens-là un avantage pour la personne qui attend un cœur, un rein ou un œil pour pouvoir vivre normalement. Ce qui est la difficulté, c'est que ces pratiques, il faudrait qu'elles échappent complètement au circuit marchand. À partir du moment où ça ne coûte pas, disons qu'il n'y a pas un prix. On s'est posé la question, quel est le prix du corps humain ? Quel est le prix de l'être humain ? Les assureurs ont répondu à cette question, hein, puisque en fonction du pays, en fonction du métier de la personne, si c'est une personne riche ou une personne pauvre, son cadavre sera remboursé d'une façon différente. Bon, parce qu'on peut apprécier tout le cynisme de ces choses-là, mais à partir du moment où on met une valeur sur un rein, ça ouvre tout. On sait très bien qu'il y a des pays où les gens sont kidnappés, anesthésiés, opérés et renvoyés chez eux avec un rein ou une autre partie du corps en moins. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'argent derrière. Donc le gros problème, il est là.
Sur ces pratiques au niveau d'un certain nombre de pays, tout à fait d'accord. En revanche, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la loi française dit bien effectivement qu'on est présumé donneur si on n'a pas formulé des vœux dans un autre sens. Néanmoins, dans la pratique, les médecins qui font le prélèvement cherchent à obtenir le consensus et l'accord de la famille et des proches. Donc, ce qui est quand même un frein supplémentaire à la toute-puissance médicale, parce que les médecins ne le font pas s'il ne s'agit pas de prélever des organes sur un adolescent mort dans un accident, si le père et la mère sont opposés. Bien que légalement, ils ne pourraient pas s'y opposer, en réalité, les médecins ne le font pas.
Il y a, par rapport à... aux religions, on voit qu'il y a une espèce de morale, hein. La société vit dans la morale, et la morale ou l'éthique avance avec le temps aussi. Si on prend l'exemple de l'avortement, il y a encore quelques décennies, c'était scandaleux de se faire avorter, voire puni de peine de mort en France il y a encore une soixantaine d'années, ou 70 ans, je ne sais pas. Maintenant, tout ça, c'est rentré dans les mœurs. On accepte l'avortement. Et donc il y a toute une avancée de ce point de vue-là qui doit se faire par rapport à la morale ou à l'éthique. Mais sur l'éthique, on s'est aussi interrogé quelle est l'éthique des chirurgiens qui enlèvent un rein à une personne qui est non consentante. Quelle est l'éthique des grands laborateurs de pharmacie qui travaillent sur le vivant pour uniquement s'enrichir. Et ça, c'est là, on n'est plus dans un. Ce sont bien des personnes qui font ces actes-là, ces gestes-là. Et donc, c'est là qu'on peut se dire quelle est leur morale, quelle est leur éthique, quoi.
Oui, oui. La complexité du prélèvement d'organes et de la greffe, on l'a évoqué aussi à travers la littérature, puisqu'on a évoqué le livre de Maëlys de Carangal, qui a écrit un roman qui s'appelle « Réparer le vivant » à partir d'un fait divers réel. Et je crois qu'elle l'a bien montré à travers cet écrit, la complexité des choses, les rapports difficiles pour les parents qui viennent de perdre un enfant, de donner un accord pour le prélèvement d'organes, même si au bout du compte, c'est pour sauver peut-être une autre personne, dont on ne saura rien, puisque là aussi, l'éthique prévoit qu'il y a des cloisonnements et qu'il y a un anonymat du don.
On a cité aussi Michel Onfray dans son livre « Féerie anatomique » où, par rapport à la bioéthique, il considère que la bioéthique devrait se résumer à une politique pour l'utilisation de tous les progrès de la science, la médecine et la chirurgie, pour que tous ces progrès permettent la santé et le bonheur de l'humanité contre le marché, le commerce et l'argent. Pour lui, donc, c'est plus que des techniciens ou des commissions qui doivent traiter de ça, mais c'est au niveau de la politique qu'on devrait s'orienter dans ce sens-là pour le bien du plus grand nombre et pas simplement pour quelques fortunes qui viendraient grossir.
peut-être on peut annoncer notre prochaine soirée débat qui aura donc lieu au mois d'octobre, le 19 octobre, toujours à la salle des fêtes de Saint-Alban, sur le sujet « La solitude procure-t-elle la liberté ?»
Vaste sujet.
Oui, on verra ce que ça donne.
Alors, ce qui est bien dans nos débats, c'est que on y vient avec ce qu'on a, quoi, hein, c'est-à-dire sa réflexion personnelle, à un niveau de culture, des niveaux de culture qui sont parfois très différents. Mais l'important, c'est d'essayer de penser par soi-même, de penser avec les autres. Et puis, dans le débat, on se rend compte que la confrontation d'idées fait que nos a priori tombent, ou qu'au contraire, on se rend compte qu'on pense parfois qu'on est seul à penser quelque chose, et puis qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose. Et ça, c'est très valorisant. Finalement, quand on autour de la table, on s'aperçoit qu'on est plusieurs à avoir les mêmes idées.
C'est néanmoins un combat constant à l'intérieur de Philo et Partage pour que ceux qui viennent participer n'aient pas forcément un ego surdimensionné pour penser qu'ils ont raison a priori avant d'arriver et d'écouter les autres. C'est un véritable enjeu, c'est même un défi.
On termine avec la pause musicale. Vous avez choisi.
La pause musicale, donc c'est Bernard Lavilliers qui, alors c'est pas forcément complètement en rapport avec notre thème, mais c'est un poème qui parle de l'art et de ce que peut l'art dans les difficultés qui traversent notre monde.
On écoute Bernard Lavilliers, Tête chargée.
La déchirure extrême qu'on déteste et qu'on aime là. La déchirure suprême qui n'est jamais la même là. Le nom de mon amour est gravé sur le sable. Un ouragan sauvage l'emporte pour toujours. Et les mots que je chante sont pris dans la tourmente. Des rêves qui me hantent et reviendront un jour. Contre la misère noire, la musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes. Que peut là, que peut là. C'est chargé dans ma tête, entre l'homme et la bête là, les métaphores brûlantes. Sur la chair bien vivante là. Regarde les vautours qui tournent sur la plage. Ils tombent des nuages où roulent les tambours. Et les livres qui brûlent en ce noir crépuscule. Nous reviendrons un jour. Que peut l'art contre la misère noire. La musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes. Que peut l'art, que peut l'art, que peut l'art contre le dérisoire, la beauté face à la misère noire. Que peut l'art, que peut l'art, que peut l'art. Rêve de retour en plein cœur du silence là. Le peintre suspendu à sa toile démente là. Et les mots que je chante sont pris dans la tourmente. Des rêves qui me hantent et reviendront un jour. Que peut l'art contre la misère noire. La musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes. Que peut l'art, que peut l'art, que peut l'art. contre le dérisoire, la beauté face à la misère noire.